Donc, Hubert Boulet, merci de nous accorder cette interview à ONU Info. Donc, vous êtes le coordinateur FAO du programme de gestion durable de la faune. Et le 5 juin est la journée mondiale de l'environnement. Et cette année, l'accent est mis sur la biodiversité, appelant la nature soit au cœur de toutes les décisions. Donc, peut-être justement, pour commencer dans le contexte d'un monde post-Covid, comment peut-on reconstruire mieux ?
Le thème de la journée mondiale de l'environnement de cette année, le temps de la nature, est, je pense, plus que judicieusement choisi. En effet, il nous indique qu'une des priorités pour envisager un avenir plus serein et surtout de ne pas renouveler l'expérience difficile que nous venons de vivre collectivement est de mettre enfin à plat nos relations avec la nature et de les revoir radicalement. En fait, il est clair que cette crise n'est pas le premier signal d'alerte de la crise environnementale globale que nous traversons. Depuis plusieurs années déjà, les questions climatiques partagent la une des médias sans avoir eu encore d'effet électrochoc. À l'inverse, l'ampleur exceptionnelle de cette crise Covid et surtout l'ampleur exceptionnelle anticipée de ses impacts socio-économiques rendent ce signal d'alerte beaucoup plus frappant que les précédents. Dans ce contexte, il est absolument essentiel de reconnaître le rôle que joue la nature dans nos vies et plus encore dans celle des populations les plus pauvres, qui souvent dépendent de la nature très directement pour leur nourriture et leurs moyens de subsistance. Par exemple, une étude a montré que sur 8000 foyers répartis en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, près de 40% d'entre eux chassent les animaux sauvages pour leur nourriture et leurs revenus, et plus de 95% en consomment la viande. Également, on peut souligner que 8800 espèces animales, parmi les mammifères, les oiseaux, les insectes ou encore les reptiles, sont consommées dans le monde. Et ceci n'est qu'un seul exemple des nombreux services que nous rend la nature. Il est donc vraiment urgent de prendre des mesures pour contribuer efficacement à maintenir les écosystèmes fonctionnels et sains, ou au moins à les restaurer. La FAO participe d'ailleurs à la décennie de la restauration 2021-2030 des Nations Unies, dont la pertinence s'impose encore plus au vu de la crise finissante.
Et donc, la FAO appelle justement à une saine gestion des écosystèmes pour assurer la sécurité alimentaire. Comment cela peut être atteint, justement ?
La question centrale de la gestion saine des écosystèmes est prioritairement celle de l'aménagement du territoire. Un aménagement du territoire rationnel, basé sur des données et informations collectées régulièrement et fiables, une vision de développement durable claire et co-construite en étroite concertation avec toutes les couches de la société pour prendre en compte tous les différents intérêts et enjeux, et une condition préalable incontournable pour maintenir les écosystèmes sains. Un tel aménagement du territoire permet en effet de rechercher à maintenir la connectivité des écosystèmes, à préserver leur intégrité de manière optimale par rapport aux objectifs de développement économique, et enfin permet la distribution spatiale des populations et de leurs mouvements aux besoins en terre et en eau pour l'agriculture. C'est un outil très puissant qui n'est pourtant pas utilisé dans de nombreux pays. Cette première priorité souligne l'importance d'un second élément fondamental pour garantir des écosystèmes sains, c'est la recherche scientifique. L'évolution démographique et les modes de vie modernes posent de nouveaux défis à l'humanité. Nous devons donc nous donner les moyens de ne pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis. La recherche scientifique doit permettre de nous apporter de nouvelles connaissances et innovations permettant de développer des systèmes alimentaires résilients et optimaux par rapport aux ressources limitées de la planète, notamment les terres et l'eau.
Donc, quelle est la relation entre production alimentaire et gestion de la biodiversité ? Et comment peut-on réduire justement les maladies infectieuses émergentes ?
Les relations entre biodiversité et production alimentaire sont multiples. Tout d'abord, quand on parle de biodiversité, on parle également de la biodiversité des espèces végétales et animales servant de base à l'alimentation, donc les plantes et animaux domestiqués, les espèces forestières et aquatiques récoltées, etc. La diversité intervient aussi en fournissant de nombreux services écosystémiques vitaux, tels que la création et le maintien de sols sains, la pollinisation des plantes, la lutte contre les parasites et la fourniture d'un habitat pour la faune sauvage, qui sont essentiels à la production alimentaire et aux moyens de subsistance en zone rurale. La biodiversité rend les systèmes de production et les moyens de subsistance plus résistants aux chocs et aux pressions, y compris ceux causés par le changement climatique. Elle constitue une ressource essentielle dans les efforts visant à accroître la production alimentaire tout en limitant les effets négatifs sur l'environnement. Elle contribue aussi de diverses manières aux moyens de subsistance de nombreuses personnes, réduisant souvent la nécessité pour les producteurs alimentaires et agricoles de recourir à des intrants externes, coûteux et également nuisibles à l'environnement. La biodiversité au niveau de la génétique des espèces et des écosystèmes aide à relever les défis posés par des conditions environnementales et des conditions socio-économiques diverses et changeantes. Malheureusement, le rapport de la FAO publié en 2019 sur l'état global de la biodiversité de l'alimentation et de l'agriculture a souligné que cette biodiversité tend à décliner. Pour répondre à votre seconde question sur la réduction des maladies émergentes, je reviendrai à la question précédente sur le maintien des écosystèmes sains. En effet, il est prouvé que les changements de paysage et la perte de la biodiversité sont des facteurs clés de l'émergence ou réémergence de maladies infectieuses. Il est démontré notamment que la déforestation, les changements d'utilisation des terres, l'urbanisation ou des changements plus temporaires tels que des inondations ou sécheresses, sont les principaux facteurs de réémergence d'un certain nombre de maladies infectieuses comme le paludisme, la dengue, le virus Ebola, la maladie de Lyme. Donc, maintenir les écosystèmes sains est une priorité absolue pour réduire ces risques sanitaires.
Donc, y a-t-il des exemples de bonnes pratiques où sécurité alimentaire et nutritionnelle et préserver la biodiversité ont été atteints dans le monde ?
Oui, il existe quelques exemples d'outils visant à permettre de concilier les enjeux socio-économiques, y compris ceux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, et la préservation de la biodiversité. On peut citer par exemple ce qu'on appelle les hautes valeurs de conservation, ou HVC, qui sont notamment des outils d'aménagement des concessions agricoles ou forestières. Ces outils sont particulièrement utilisés dans le contexte de schémas de certification, tels que la table ronde pour l'huile de palme durable, qui est les RSPO, ou la certification de gestion durable des forêts FSC. Ces outils permettent de définir dans les concessions concernées différents types d'espaces. Par exemple, des espaces de conservation d'intérêt pour créer des corridors de passage de la faune au sein d'une concession agro-industrielle ou pour maintenir une population d'espèces menacées. Ces outils permettent également de sécuriser les zones d'usage des populations locales comme les zones d'agriculture vivrière paysanne. Couplé à l'utilisation de la cartographie participative, permettant de définir ces zones de manière concertée avec les populations locales, ces outils ont démontré leur capacité à vraiment respecter des intérêts qui peuvent paraître au départ totalement incompatibles. Néanmoins, la bonne application de ces outils reste un vrai défi, car ils ne peuvent être efficaces que dans un cadre de bonne gouvernance, garantissant une parfaite transparence entre les parties prenantes, une participation active des parties prenantes aux prises de décision, et bien sûr, la nécessité de rendre des comptes en responsabilité.
Peut-être une dernière question. En cette journée mondiale de l'environnement, auriez-vous un message important pour les jeunes ?
Effectivement, le rôle des jeunes est essentiel. Le temps de la nature, qui est le thème cette année, c'est eux qui auront la lourde tâche de le mettre en œuvre. On a d'ailleurs vu la nature se réveiller petit à petit depuis le début du confinement qui nous a été imposé. Il faut donc qu'ils construisent sur ce nouveau réveil.
Hubert Boulet, merci beaucoup.
Merci à vous.